c'était le commencement d'un nouveau quotidien. Te souviens-tu, Jamel, du patron de bistrot qui t'a refusé une bière un jour rue des Abbesses? Comme tu ne te fâchais pas, tu demandais de l'eau, l'a fait sortir son chien de sous le tiroir caisse. Te souviens-tu, Jamel, du soir où tu t'es fait casser bêtement la gueule par une bande de tondus? Il y a les beaux quartiers qu'il vaut mieux éviter quand on n'est pas comme ceux qui possèdent les rues. Te souviens-tu, Jamel, des boulots des débuts, balayeur, éboueur, manœuvre sur les chantiers, et la gamelle froide et la chambre exiguë? Te voilà installé, mais tout n'a pas changé. Maintenant, tu sais, Jamel, quand tu passes au péage d'une autoroute, que tu vas te faire arrêter. Les flics, c'est bien connu, respectent les usages. L'usage veut qu'on contrôle plutôt les gens bronzés. Et tu verrais, Jamel, si tu venais chez moi, le temps qu'il te faudrait pour passer la frontière. Avec tes cheveux longs, ton accent de là-bas, faut dire que tu n'as pas l'allure d'un homme d'affaires. On pourrait continuer, Jamel, t'en souviens-tu, les sarcasmes, les filles, la haine des parents. Ce que je voulais dire, c'est simplement salut à toi et à tous ceux que l'on dit différents. Ce que je voulais dire, c'est simplement salut à toi et à tous ceux que l'on dit différents.
Radio Libertaire 89,4, la voix sans Dieu, sans maître et sans publicité de la Fédération anarchiste. C'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie, comme chaque mercredi matin de 9h30 à 10h30. Et nous sommes deux avec Sylvie. Bonjour Sylvie.
Bonjour tout le monde.
De la, du groupe Libertaire d'Ivry et de l'émission Lundi Matin. Le lundi matin sur Radio Libertaire. Et on va continuer à parler aujourd'hui de Les Brutes en Blanc, le livre de Martin Winkler, qui a été. Qui est paru en 2000. À chaque fois, je ne me rappelle jamais la date.
Je crois que c'est 2016.
16
Oh là
c'est
là.
Ça, oui.
On doit confondre avec le bouquin d'avant, tu sais, celui sur les médicaments,
oui,
qui était paru en 2003.
Qui était plus ancien, oui.
Ouais. 2016, donc On précise qu'on en est au chapitre combien, t'as même pas compté, enfin...
Oui, genre, c'est vrai que j'ai pas...
Ça doit être le 10, le 15, je sais.
Alors en fait, c'est des grands chapitres, donc c'est le chapitre 4, mais...
Ah bon
c'est, on en est maintenant au 9 dixième du livre. Donc on a
voilà, ça doit bien faire quand même une dizaine d'émissions qu'on a fait sur le sujet, quoi.
Ah oui, c'est parce que c'est le 4 de la troisième partie, voilà, c'est ça.
Oui, voilà, donc c'est bien ça. Et on précise, tu vas peut-être présenter le livre pour ceux qui avaient raté les épisodes précédents. Et puis on précise encore une fois que, à moins que toi t'aies pris le temps de le lire entre deux, en fait on découvre le chapitre en même temps que vous, on n'a jamais lu. Donc faire des commentaires, ça sera complètement au débotté.
Voilà. J'ai rien lu du chapitre que nous allons lire aujourd'hui.
Et alors, donc, tu peux nous présenter un petit peu le bouquin et l'auteur ?
Oui, le bouquin, c'est... à travers la quatrième de couverture, la vocation des médecins est de soigner, guérir parfois, soulager souvent, consoler toujours, entre guillemets. Alors pourquoi certains médecins sont-ils maltraitants ? Discrimination, jugement de valeur, violence verbale et physique, gestes imposés ou archaïques, ces brutes en blanc enfreignent la déontologie et la loi. Martin Winkler décrit ici les rouages de la maltraitance médicale et les moyens de s'en protéger. Né en 1955, Martin Winkler a exercé la médecine générale en France de 1981 à 2008. Romancier, essayiste et critique, il est l'auteur de La maladie de Saxe, Le cœur des femmes et Les histoires de Franz. Et puis, il est parti vivre au Canada où il a participé à la formation de futurs médecins à l'université McGill et à l'université d'Ottawa. Avec une petite phrase de libération à la sortie du bouquin, Martin Winkler met au jour les nombreux dérapages de la profession face aux patients. Une position souvent salutaire. Voilà. Alors,
Donc c'est bon, tu te...
Alors j'arrive, oui.
Voilà.
Donc on va lire le chapitre. Donc on est sur l'enseignement des élèves en médecine et il s'agit d'un enseignement qui lui-même est maltraitant.
Maltraitant envers les... Oui,
envers... envers toujours les patients. Parce que... dans leur... apprentissage... je sais pas.
Parce qu'il me semble que dans les chapitres précédents, il était question qu'il y avait aussi des maltraitances envers les étudiants.
Oui, aussi, c'est ça.
Aussi,
oui. Non, c'est ça. Oui. Je me disais bien que je me trompais.
L'un n'empêche pas l'autre. Hein. On peut apprendre aussi aux étudiants qu'il est normal, souhaitable, pourquoi pas, de maltraiter les patients. C'est pas impossible, on va découvrir ça.
Oui, mais c'est surtout que je me demande si dans l'apprentissage, il y a le contact des élèves avec des patients. Mais ça peut
probablement,
arriver, oui.
Je pense qu'en tant que patient... la plupart des gens qui ont été patients, beaucoup de gens se sont retrouvés confrontés à toute une bande d'étudiants qui écoutaient, péroraient leur enseignant, comme s'ils étaient vraiment un quartier de viande. Hein. Je crois que c'est quelque chose qui est très très courant comme situation.
Alors la dernière fois, on a parlé des patients... Alors, beaucoup d'enseignants ne font que reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes subi 20 ans plus tôt. Et un enseignement souvent, c'est évoqué que ce qu'on a évoqué la dernière fois montre que un enseignement comme ça est plus comparable à un dressage qu'à une éducation. Et les enseignants le dispensent en même temps qu'ils expérimentent. Alors, on avait parlé la dernière fois des patients cobayes, l'attribution de la triple autorité, soins, recherche, enseignement au chef de service de CHU par la réforme Debré de 58 a eu pour conséquence que beaucoup d'entre eux se sont voués à ce qui valorise et rapporte le plus, à savoir la recherche, ou plus être, pour être plus précis, l'expérimentation sur les patients. Ainsi, jusque dans les années 70, il était de coutume que les psychiatres testent des molécules sur les personnes hospitalisées pour en identifier les effets. Mais
juste à ce stade-là, c'est peut-être expliqué plus tard, mais est-ce qu'il est inévitable que la recherche mène à l'expérimentation sur des patients ou même des animaux? Est-ce que les motivations des gens qui veulent faire la recherche, il a l'air de penser que c'est uniquement pour des raisons limite d'ego ou de finances qu'on choisirait cette voie-là? Or moi, il me paraît pas invraisemblable que des gens soient réellement intéressés par le principe même de la recherche. Et que, est-ce que, voilà, encore une fois, est-ce qu'il est inévitable que la recherche se passe en faisant des expériences sur les gens, ou sur les animaux d'ailleurs? Est-ce qu'on ne peut pas faire autrement? Enfin, c'est vraiment une question, parce que je suppose que ceux qui font des expérimentations diraient que c'est impossible de faire autrement. Et je suppose qu'il y a bien un moment où il faut essayer un nouveau médicament sur des gens. Mais par exemple, il y a certaines recherches, mettons les recherches sur des maladies qui sont de toute façon incurables, où on peut attendre d'avoir une quasi-certitude qu'il n'y aura pas trop d'effets secondaires et demander le consentement des patients, parce que de toute façon, c'est ça ou les soins palliatifs. Je me fais un peu l'avocat du diable, mais en tout cas sur le procès d'intention qu'il a l'air de faire d'entrée de jeu, à moins que c'est moi qui ai mal compris, il a l'air de penser que quand les gens choisissent la recherche, c'est pour des raisons pas terribles, quoi. Enfin, je veux dire, qu'ils ont des intentions, je te dis, c'est plus valorisant, c'est mieux payé. Tu vois que ce serait pour ça. Or, des gens peuvent être intéressés par la recherche quand même. Ouais, enfin, sincèrement, je veux dire, non?
Bon, ça part du principe déjà que seulement certains médecins sont maltraitants, mais pas tous.
Je sais pas, dans la formulation, si tu peux relire juste la formulation par rapport aux motivations qui supposent à ceux qui choisiraient cette voie-là. Est-ce que c'est généralisant ou est-ce qu'ils disent c'est seulement certains, mais il y en a d'autres, ce serait parce que ils aiment le principe de la recherche, ce qui est quand même pas... C'est un peu rapide de dire que si c'est ce qu'il a dit, que ça pourrait être que pour des mauvaises raisons. Donc comment il le formule exactement?
Alors, donc l'enseignement qui consiste quand même à dire si tu n'obéis pas à ton maître, tu n'apprendras jamais à faire les gestes qui comptent, ou si tu n'apprends pas les bons gestes et si tu ne les fais pas comme on les apprend, les patients vont mourir, etc. Donc ce genre d'enseignement, par lequel beaucoup d'enseignants ne font que reproduire ce qu'ils ont eux-mêmes subi 20 ans plus tôt, est beaucoup plus comparable à un dressage qu'à une éducation. Et les enseignants le dispensent en même temps qu'ils expérimentent. L'attribution de la triple autorité, soins, recherche et enseignement, tout cela à la fois, au chef de service de CHU par la réforme de Debré de 58, a eu pour conséquence que beaucoup d'entre eux se sont voués à ce qui valorise et rapporte le plus, à savoir la recherche. Beaucoup d'entre eux, voilà.
Si je reprends la formulation, c'est beaucoup d'entre eux, ça peut franchement donner l'impression que ceux qui ont choisi cette voie-là, ça peut être que pour de mauvaises raisons. Enfin, je sais pas, ils envisagent pas, enfin, je vois pas envisager qu'il y a des gens qui choisiraient la recherche pour de bonnes raisons. Or, moi, je vois pas pourquoi il y aurait pas des gens qui auraient, par exemple, l'envie de trouver des remèdes à des maladies qui n'en ont pas. Enfin, je sais pas, oui, la sclérose en plaques, des cancers incurables, tu vois, c'est quand même très possible. Et en effet, d'ailleurs, c'est pour ça que je me pose la question, il y répond peut-être, comment est-ce que il faut bien qu'à un moment ou à un autre, ce soit appliqué à des malades pour voir si ça marche, parce que sinon c'est... Et comment est-ce qu'on peut contourner le problème de fond qui est que à un moment donné, il y a des gens qui vont servir de cobayes. Comment est-ce qu'on peut limiter au moins le principe du cobaye que, ah merde, encore raté, enfin, mais oui. Que tu ferais absolument n'importe quoi et que tu te passerais aussi du consentement. Mais faut reconnaître que c'est un problème assez épineux. Enfin, pour connaître des gens qui ont une maladie incurable, ce serait puis même une maladie qui était incurable à un moment donné, c'était la tuberculose. Et je connais une dame qui a eu, au dernier moment, hein, autour d'elle, ça mourait comme des mouches dans le sauna où on l'avait mise, de la tuberculose. Et on a trouvé enfin un remède. Au début, la première fois, mais heureusement, ça s'est passé très très vite, mais on lui avait proposé un remède qui, à l'époque, ça avait des bonnes chances de marcher, mais ça rendait sourd. Comme elle voyait les gens mourir et qu'elle-même, elle avait eu une opération lourde qui n'avait pas marché, parce que les gens mouraient vraiment beaucoup à l'époque. Eh bien, elle avait dit, quand même, je préfère être sourde que morte. Et coup de bol, il y a eu un remède qu'on lui a proposé et qui a fonctionné, puisqu'elle a aujourd'hui tout de même la bagatelle de 97 ans, alors qu'elle en avait 20 à l'époque, tu vois. Et donc, c'est pour te dire que malgré tout, on peut pas dire que c'est inutile de faire de la recherche, rien que cet exemple montre. Et en effet, elle a accepté parce que c'était ça, dans le cas d'une maladie incurable, c'était ça ou mourir. Mais dans d'autres cas où c'est peut-être moins extrême, enfin, que je sais pas, c'est ça ou je meurs, par exemple, si t'as une maladie chronique de peau ou un truc, enfin, tu vois, un truc comme ça, et que si c'est que t'es consentant pour essayer, et qu'on fait pas non plus ça comme ça, un peu genre, on sait pas trop ce que ça fait, mais on va bien voir. Enfin, tu vois. Mais c'est comme l'expérimentation sur les animaux. C'est quand même assez cornélien, je trouve, le problème de l'expérimentation. Enfin, je sais pas comment tu le sens. Tu vois, Matt Contour qui a une sclérose en plaques, qui souffre horriblement. Il essaye des trucs et des machins alternatifs, ça marche pas. Enfin bon, si on trouvait un remède à la sclérose en plaques, je suppose que même s'il était encore expérimental, qu'il dirait OK, je vais voir. Enfin non, oui, tu vois ce que je veux dire.
Il y a un accord, je dirais presque même une complicité à ce moment-là entre le patient et le soignant.
Voilà, c'est donc possible de choisir la recherche parce que on a vraiment envie de faire avancer une cause humaine. Enfin, tu vois. Voilà, c'est pas... Parce que je trouve, enfin, c'est peut-être moi qui me le sens comme ça, mais j'ai une impression de la façon dont il présente les choses, qu'il n'a pas l'air d'imaginer, à moins qu'il le dise plus tard, que pour des bonnes raisons, on puisse choisir la recherche, quoi. Voilà, c'est l'impression que ça m'a fait, un peu. Voilà. Donc, continue, peut-être que...
Alors, là, on passe à autre chose, c'est les patients exposés comme du bétail. C'est-à-dire qu'à un moment, on avait lu une anecdote aussi la semaine dernière, il y a deux semaines, il raconte qu'il avait eu une éruption désagréable, qu'il avait des boutons, je sais plus quoi, sur l'aine et tout ça, et qu'il s'est retrouvé à être montré à des élèves. Voilà.
J'avais même raconté que moi, il m'est arrivé encore pire, puisque j'avais des boutons sur le cul et que j'ai entendu un mouvement de foule derrière moi quand le médecin a dit « Approchez-vous pour mieux voir. » C'est vachement... C'est génial comme situation.
C'est vachement scientifique.
Oui.
Alors, il devait s'agir de pratiques courantes en dermatologie, écrit Martin Winkler, car à la même époque, la journaliste Claire Brisset publiait dans Le Monde l'article suivant. Une exposition de malades à l'hôpital Saint-Louis. Ce n'est pas une poupée, ni une voiture ou un aspirateur, c'est une adolescente. Marie-Laure, 15 ans, l'une des 60 malades qui ont été exposées, entre guillemets, le jeudi 8 mars à l'hôpital Saint-Louis, sous ses pieds posés sur une chaise, une pancarte, ne pas toucher. Car, pour les autres, on touche même beaucoup. On tâte, on inspecte, on dit... Pouvez-vous tourner ? Cette effarante mise en scène a lieu chaque année en mars pour inaugurer les journées dermatologiques de Paris qui réunissent traditionnellement des centaines de congressistes à l'hôpital Saint-Louis.
Je précise juste que c'est à l'hôpital Saint-Louis qui m'est arrivé le truc que j'ai raconté tout à l'heure. C'était à l'hôpital Saint-Louis, puisque c'est l'hôpital spécialisé en dermatologie où t'as, n'est-ce pas, les grands pontes, et où, soit dit en passant, le grand ponte me disait absolument n'importe quoi, puisque je lui ai demandé qu'est-ce que je pouvais avoir comme remède, ayant un peu d'eczéma, quoi. Enfin, beaucoup à l'époque. Et il dit corticoïdes. J'ai dit, je peux pas continuer les corticoïdes. En plus, même c'était évident que c'était, je l'avais vu, même c'était sur la notice, quoi. Ça va quand c'est quelque chose qui est ponctuel, quoi, tu vois. Mais autrement, c'est quelque chose qui produit, enfin, les corticoïdes produisent un effet systémique. C'est-à-dire que ça empire si tu le fais, c'est pas pour les maladies chroniques. Donc je lui dis, mais c'est pas possible, car corticoïde qui me fait, hop, après que tout le monde a regardé mon cul, j'avais plus qu'à sortir avec mon remède en peau de lapin. Voilà. Et c'était le super hôpital réputé mondialement pour la dermatologie, l'hôpital Saint-Louis à Paris. Ouais.
Alors, suite de l'article de la journaliste Claire Brisset, les malades sont placés dans les salles de consultation de trois pavillons de dermatologie où défilent en rang serré les congressistes qui commentent à voix forte les cas rares ainsi présentés. Chaque congressiste est muni d'un volumineux catalogue où, suivant la formule des musées, chaque malade porte un numéro. Les congressistes peuvent ainsi lire la description détaillée des cas et se reporter à l'original, assis sur une chaise dûment numérotée. Le jeudi 8 mars, la palette des cas ainsi présentés a paru intéressante. En effet, au numéro 20, une jeune fille en soutien-gorge a pu se faire tâter abondamment, puis interroger en ces termes « Quel âge avez-vous, ma petite chatte ?» Au numéro 24, un enfant de 4 ans porte une lésion au pied. « Ça chatouille quand on te touche ?»« tu seras beaucoup chatouillé aujourd'hui. » Dans un autre pavillon est exposé une Mongolienne, un peu plus loin un lépreux. Il est malien. Derrière son dos, une grande pancarte porte la mention « Hansen ». C'est devenu une rareté. Plus loin, une dame d'une soixantaine d'années proteste à mi-voix. « C'est comme à la foire du trône. J'ai l'impression d'être un bestiau. On ne m'avait pas dit que cela se passerait comme ça. On m'avait juste demandé si je voulais bien participer à une réunion. » L'an dernier, l'exposition a permis de montrer un certain nombre de réfugiés récemment arrivés du sud-est asiatique et porteurs de maladies rares, donc intéressantes. Cette année, l'Afrique était solidement représentée. Aujourd'hui, ceux qui détendent la formule estiment sans rire qu'elle est profitable au prestige de la dermatologie française et de l'hôpital Saint-Louis en particulier. Il est vrai que jeudi, on entendait parler beaucoup de langues étrangères dans les pavillons de l'exposition.
Je précise aussi une chose par rapport à ça, parce qu'il le c'est sous-entendu, mais il le dit pas assez clairement. C'est que ces consultations-là, les consultations de l'hôpital Saint-Louis, qui sont réservées à ceux qui sont vraiment impécunieux, c'est-à-dire que c'est pour ceux qui ont le, à l'époque c'était le ticket modérateur, maintenant c'est la CMU, on va dire. C'est quand même un problème de classe sociale, quoi, vraiment. Parce que quand, en revanche, j'ai pu casser la tirelire pour aller voir d'ailleurs un de ceux qui consultait comme ça, mais qui consultait dans son cabinet privé, j'ai pas été traité évidemment de la même manière. J'ai eu, évidemment, j'avais pas un troupeau derrière mon cul, et etc. Mais même, il n'y a pas, ça serait exagéré de dire qu'il était respectueux, mais enfin, c'était pas à ce point-là. C'est quand même un problème de classe. Je dirais, c'est l'équivalent, bah, dans tous les domaines, on n'a pas la même, on mange pas de la même manière, on vit pas au même endroit, on n'est pas, et ou par exemple, si jamais tu as un problème judiciaire, un avocat commis d'office, c'est l'équivalent de la façon dont se conduisent les médecins quand ils ont affaire à des gens, disons les choses un peu crûment, pauvres, quoi, tu vois. Mmh. Voilà.
Donc là, c'était donc un article de Claire Brisset de Le Monde, 10 mars 1979. La présentation du patient, cette espèce de cérémonie, n'est pas limitée à la dermatologie, ni même à l'hôpital Saint-Louis. À l'époque où je faisais mes études au CHU de Tours, Plusieurs camarades racontèrent par écrit un cours que leur professeur de maladie digestive avait consacré au ravage de l'alcoolisme. Il avait fait sortir de son lit une malade hospitalisée et l'avait fait monter sur l'estrade. Il avait désigné ses tremblements, son abdomen déformé par l'ascite et son visage constellé de vaisseaux dilatés. Il lui avait même demandé de dire quelques mots pour que les étudiants entendent ses difficultés à articuler, typiques d'une alcoolique chronique. 15 ans plus tard, au début des années 90, une amie me décrivit avec horreur l'humiliation qu'on lui avait fait subir dans le service de gastro-entérologie d'un CHU parisien. Quand elle s'était présentée à la consultation, on l'avait fait attendre dans un box à deux portes, en lui demandant de se déshabiller entièrement et d'enfiler une simple chemise fendue à l'arrière. On l'avait fait entrer dans une salle où se trouvait, sans qu'on l'ait prévenu, un groupe d'internes postés autour de leur patron. L'un d'eux l'avait guidé jusqu'à une table d'examen installée au milieu de la pièce. Là, il l'avait fait monter sur la table et lui avait demandé de s'agenouiller et de se prosterner, le visage contre le cuir. Pendant qu'elle se cachait le visage, honteuse, elle avait entendu quelqu'un enfiler un doigtier en caoutchouc et l'avait senti, sous le regard de tous, lui glisser sans ménagement l'index puis un objet rigide dans l'anus. 5 minutes plus tard, elle ressortait en larmes. L'examinateur n'avait pas prononcé un mot. Avant qu'elle ait fini de se rhabiller, elle avait entendu la porte du box s'ouvrir, sans qu'on ait frappé, et un jeune homme lui déclarait « On va écrire à votre médecin traitant. Au revoir, madame. » Elle avait appris plus tard que la consultation en question avait essentiellement pour fonction d'enseigner l'endoscopie aux internes. Ce n'était donc probablement pas le professeur qui l'avait, entre guillemets, examiné.
Non, parce que ça aura changé. Enfin, pour la patiente.
Oui.
Ouf, ça va. Ouais. C'est comme pas n'importe qui, hein. Quitte à se faire. Non, c'est vrai. C'est quand même très consolant de se dire que c'est pas, que c'est quand même quelqu'un qui a un certain bagage et, oui, pas, et pas un et prétin de cancre, le dernier de la classe et tout. Qui, voilà.
Oui, alors qu'en fait, ça fait pas de différence.
Voilà, je pense pas que ça soit très différent. Mais bon.
L'apprentissage indélicat du toucher vaginal. Dans les facultés de médecine française, jusqu'en 2015 au moins, l'objectification des patients était, entre guillemets, justifiée dans l'esprit des enseignants par la formation des futurs médecins, ou plutôt leur déformation. L'illustration la plus récente des manquements éthiques régnant dans l'enseignement médical date de 2015. C'est la polémique des touchés vaginaux sous anesthésie générale. Je reproduis ici des extraits d'un texte de Bruno Pi, professeur de droit privé et sciences criminelles à l'Université de Lorraine, qui résumait l'affaire dans ses dimensions morales et juridiques. Je cite... C'est le journal gratuit Metro News qui fut à l'initiative d'une violente campagne médiatique par la publication le 2 février 2015 d'un article intitulé « Touchés vaginaux sur patientes endormies, un tabou à l'hôpital ?» Cet article révélait que, sur le site de l'université Lyon-Sud, un document officiel suggérait que les étudiants devaient s'exercer au toucher vaginal sur des patientes endormies au bloc opératoire. Des réponses maladroites de la doyenne de l'UFR concernée et du président du Collège national des gynécologues et obstétriciens français amplifiaient l'émotion. Toute la presse nationale s'était alors enflammée. Le ministre de la Santé s'apprêtait à saisir le président de la Conférence nationale des doyens des universités de médecine. L'explication sociologique. Les explications fournies globalement par les médecins qui justifient ces pratiques sont désarmantes d'anachronisme. Je cite « C'est utile. Les patients ne s'en rendent pas compte. Si on leur demande, ils refuseront. De toute manière, ils doivent bien s'en douter. » Fin de citation. Si nul ne conteste l'utilité de l'enseignement du toucher rectal et du toucher vaginal, chacun des autres arguments est facile à renverser. L'inconscience n'est pas une raison, mais une circonstance aggravante de vulnérabilité. Le risque de refus est le corollaire de l'exigence légale de respect du consentement. Le consentement n'est pas un luxe, mais une nécessité juridique absolue. Enfin, le consentement ne se présume pas.
Bah, d'ailleurs, je pose aussi une question comme ça, mais qui, je comprends qu'il soit un petit peu embêté, parce que qui va consentir réellement à ça ? Soit tu vas te sentir une préparation, soit disant pourquoi on consentirait à ça ? Enfin, tu vas demander à une patiente, ça vous dérange pas si je vous trifouille un peu ? Ben si, ça me dérange, évidemment que ça me dérange. Donc jamais, leur problème, ils pourraient répondre, mais ouais, mais si on attend qu'ils consentent, elles consentiront jamais. Bon. On est bien obligés. Hein, elles se laisseraient pas faire si elles étaient pas endormies. Et si on leur demandait leur consentement, ben, jamais on apprendrait. S'il faut vraiment apprendre le toucher vaginal, soit tu l'apprends en théorie et puis tu ne le fais que dans la mesure où, à la limite, tu vois, je veux dire, tu peux te dire dans d'autres domaines, tu vas faire, à la limite, tu vas apprendre parce que, tu vas assister avec un, c'était nécessaire de toute façon, et que tu vas assister à un toucher vaginal ou rectal nécessaire. À l'arrière, tu vois, si c'est pour s'exercer, ça vous dérange pas, c'est parce que tu sais, il est un petit peu débutant, il a pas encore, il en est que à son dixième toucher rectal, et c'est pas encore ça, donc ça vous dérange pas. J'ai bien peur qu'il remporte pas beaucoup de consentement, hein, tu vois, et c'est ça aussi la question qui est pas évoquée là dans le commentaire. Évidemment que les femmes vont jamais être d'accord. Ni les hommes pour ce qui est du toucher rectal, évidemment que tu vas dire non, désolé, mais t'essaieras d'apprendre en regardant sur des images, débrouille-toi autrement, mais moi je veux pas te servir pour t'exercer, quoi. Donc, en effet, c'est un peu cornélien. Bon, on parlait des cobayes tout à l'heure pour les médicaments ou pour... tu dis, bon, dans un cas où c'est à l'extrême, quoi. Mais là, je vois pas qu'est-ce que tu peux arguer pour que la personne consente à ça. Je vois pas comment tu pourrais argumenter que quelqu'un va s'exercer sur ton trou du cul et tout pour arriver à avoir son examen à la fin de l'année. Enfin, je veux dire, je sais pas. Tu dis, je préférerais que ce soit qu'on me fasse ça quand c'est nécessaire, et pas en effet plutôt tant qu'à faire quelqu'un qui sait ce qu'il fait, quoi. Jamais ils auront un consentement, enfin à mon avis, hein.
Oui.
Ou alors si peu, si rarement que que ça vaut pas le coup d'en parler. Enfin voilà.
La qualification pénale envisageable. La loi du 23 décembre 1980, dans sa nouvelle définition du viol, n'a pas lié la qualification à la satisfaction d'une pulsion sexuelle. Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, constitue un viol. Fin de la phrase. Aussi peut-on envisager que tout acte médical entraînant une pénétration des organes sexuels imposés par violence, contrainte, menace ou surprise puisse être qualifié de viol. Ce pourrait être le cas pour un frottis vaginal, un toucher rectal, une échographie endovaginale ou une coloscopie imposée par un médecin. Pour le droit pénal, abuser sexuellement de la femme ivre ou assoupie ou pratiquer un toucher rectal sur un patient anesthésié constitue le crime de viol. Dès 1956, dans Traité de droit médical, on pouvait lire, je cite, « Il n'est nullement vrai que l'entrée, même volontaire, du malade à l'hôpital ou dans une clinique implique nécessairement l'acceptation faite par avance des traitements que les médecins de cet établissement jugeront bon de lui faire subir, ni que l'anesthésie consentie comporte d'avance le consentement à une opération quelconque. » Nul ne conteste l'importance de former tous les étudiants en médecine à l'examen clinique qui restera jamais primordial, quels que soient les progrès technologiques. Mais cet enseignement clinique, au lit du malade, supporte désormais d'y associer chaque patient dans le respect de sa liberté d'accepter ou de refuser cette participation passive à l'apprentissage du futur médecin. Pour la loi, le patient ne doit plus être considéré comme un objet pédagogique, mais, s'il en est d'accord, comme un sujet pédagogique. Voilà, comme on disait, s'il en est d'accord.
Bah oui, mais le problème, voilà, c'est à la limite, il y a quand même, c'est vrai que c'est important de faire cette différence. À la limite, qu'on dise, ça vous dérange pas qu'on regarde votre lésion sur le bras, tu vois ? Ben, ça m'aurait pas fait le même effet que de voir une troupe de jeunes hommes en train d'examiner mes fesses, quoi. Je veux dire, toutes les parties du corps sont pas vraiment équivalentes. Ça m'aurait beaucoup moins dérangé qu'ils examinent. En plus, le truc qui est dingue quand j'y réfléchis, c'est que de l'eczéma, j'en avais partout. Donc pourquoi est-ce qu'ils voulaient justement examiner mes fesses? Je vous le demande. Enfin, c'est presque une question rhétorique. Ils auraient pu tout à fait examiner. J'étais pas obligée de me déshabiller complètement. Je disais que j'en avais partout. Ils auraient pu regarder mes bras. Mais non, tu vois, bon, je veux dire, c'est, mais faut reconnaître que le problème, il survient quand c'est principalement, quand c'est pas seulement le fait d'être comme un quartier de viande, ce qui est déjà un peu gênant, mais enfin, à la rigueur, tu dis bon, ok, faut bien qu'il m'examine, mais servir d'outil pédagogique avec des parties, que t'as pas du tout, enfin, c'est pas, enfin voilà, ton bras, tes fesses, le sexe, c'est pas la même chose, et je pense que n'importe qui est un petit peu honnête est obligé de le reconnaître, hein. Donc voilà, et là on en vient aussi à ce problème-là, qui va consentir à servir d'outil pédagogique avec ses fesses ou son sexe, enfin je veux dire, c'est, et puis que quand on lui tripote, je sais pas, là, comme la jeune fille, qu'on lui tripote les seins, c'est quand même quelque chose de très, enfin je pense que très très peu de personnes, bah hommes ou femmes d'ailleurs, je pense que les hommes peuvent être aussi très embarrassés de qu'il y ait des gens qui voient des parties intimes qui sont pas censées montrer que dans d'autres circonstances que ça, tu vois. Et donc c'est quand même assez cornélien. Ça rejoint un peu le problème d'être un cobaye pour médicaments, mais voilà quoi, tu te dis, c'est dans le cas de c'est toi qui va être soigné, tu te dis ouais, tu vas dire ok. Si on te demande vraiment ton avis, tu vas dire ok, j'ai bien. Si t'es en âge de bien comprendre en quoi consistent les risques, etc., tu peux donner ton consentement. Mais pourquoi est-ce que tu consentirais à aider des étudiants, à prêter comme ça ton corps, enfin des parties que t'as pas envie de montrer à tout le monde, pour qu'ils puissent être éduqués, enfin. Tu dis, essaye de faire ça plutôt avec des planches anatomiques. Non, c'est vrai, quoi. Voilà, on va peut-être passer une petite
Une pause, oui, avec Matt Conture, dont on parlait tout à l'heure.
Non, oui. Oui, c'est vrai. Donc, Matt Conture, en effet, a fait une BD qui est en vente à Publico. Enfin, il fait beaucoup de BD, mais enfin, où il raconte sa sclérose en plaques. Et il explique à quel point il souffre et à quel point, dans sa recherche de remèdes, moi je trouve qu'il tombe un peu dans les pattes de n'importe quel charlatan, parce que quand ta maladie est très douloureuse et incurable, c'est vrai que je pense qu'il y a des bonnes chances, j'ai pas vu exprimer ça, mais qu'il accepterait peut-être de voir un remède, enfin du moment que c'est pas un truc comme ça qui sort d'un chapeau, mais comme la personne tuberculeuse dont j'ai parlé. Donc il y a Sclérose en plaques de Matt Conture, qui fait donc le groupe Courge, qui anime le groupe Courge qu'on va entendre maintenant. Cette BD est en vente à Publico, Sclérose en plaques de Matt Conture.
Les petits lapins!
C'est pas moi qui les ai tués!
Les petits lapins! Les petits lapins!
Que dalle! Je comprends, que dalle! Je comprends, que dalle!
Les petits lapins! C'est pas moi qui les ai tués! Les petits lapins!
Ils traversaient dans un chantier!
Les petits lapins! Les petits lapins!
chez tout le nanan. Même si Bourville n'était pas là, il faudrait l'honorer au fourrage. Au fourrage, au fourrage.
Voilà, c'était donc un extrait de Courge, Matt Conture, et on continue, c'est l'Entonnoir, émission critique de la psychiatrie sur Radio Libertaire, 89,4, la voix sans Dieu sans maître, et sans publicité de la Fédération anarchiste.
Je veux dire un petit mot. Voilà. C'est Laurent me signale que il faut, enfin c'est pas il faut. Hein. On y avait pensé et je l'ai pas encore fait. Donc on veut remercier Marie et Margarita qui sont venues au débat qu'on avait co-organisé avec Denis dimanche à la librairie Publico. Et qui nous ont, enfin, on était très contentes de les rencontrer déjà. Et puis ensuite, il faut remercier aussi Marie pour les clémentines et les madeleines avec lesquelles on s'est régalé. Et pas toi, parce que t'es partie avant qu'elle laisse pas qu'elle lui. Et surtout, rien à Denis.
Oh, c'est un scandale.
Non,
bien,
non.
Un bisou à Marie et à
Margarita.
Et à Margarita.
Voilà.
de la... Alors, chapitre 5 de la troisième partie. Troisième partie du livre de Martin Winkler, Les Brutes en Blanc. La fabrique des Brutes en Blanc. De la déformation médicale. Comme le résumait une étudiante lors d'une rencontre publique à laquelle je participais, je participais, il y a une dizaine d'années, le patron d'un service impose ses décisions à ses, entre guillemets, agrégés. Les agrégés imposent leurs diktats aux chefs de clinique. Les chefs de clinique transmettent les leurs aux internes et aux infirmières, les internes aux étudiants et les étudiants sur qui apprennent-ils à exercer l'autorité et les menaces que leurs aînés exercent sur eux ? Sur les patients.
C'est la chaîne du bonheur.
Effectivement, au paradoxe premier de la formation médicale à la française, je te domine, je t'humilie, je te fais peur, je te maltraite, et tout ça, ça fait un médecin français. S'en ajoute un second, plus destructeur encore. Si le patient refuse de se soigner, c'est qu'il est inconscient des dangers. Tu dois lui faire peur. La peur est omniprésente dans la formation médicale française. Mais il y a deux sortes de peur. La première naît de ce que les étudiants observent sur les patients, la souffrance, la fièvre intense, la jaunisse, les saignements, le coma, les plaies, les déformations et les cicatrices. Tout ça fait peur à la plupart d'entre nous. Le meilleur moyen de calmer leur peur, c'est de montrer aux futurs médecins comment on soigne, on pense, on répare. Quand on voit un nourrisson convulsé de fièvre, ça fait peur. Quand on sait faire cesser ces convulsions fébriles et quand on sait qu'elles sont le plus souvent bénignes, on n'a plus peur. Le savoir et le savoir-faire permettent aux médecins de mettre ses peurs de côté, de rassurer tout le monde et de soigner. Mais outre qu'il ne leur apprend pas à maîtriser ces peurs-là, ni à rassurer les patients, l'enseignement à la française en instille une autre dans la tête des étudiants, celle de déplaire à leur maître en ne traitant pas le patient comme ils le font eux-mêmes ou disent de le faire. Le patient qui ne se conforme pas à ce qu'on lui a prescrit se met toujours en danger. En outre, il ébranle par son, entre guillemets, inconscience et son refus de se soigner la vérité médicale, vérité aussi entre guillemets. Par conséquent, le médecin qui ne cherche pas à le ramener dans le droit chemin est complaisant ou faible ou dénué d'autorité. C'est un traître à sa profession, à ses maîtres, à sa mission, à son serment, pas moins. Cette conception du métier de médecin fondée sur la peur et sur la soumission, les étudiants la subissent quotidiennement. Ce n'est pas un apprentissage du soin, mais l'opposé, un apprentissage du pouvoir. S'agit-il encore de formation scientifique ? N'est-on pas plutôt dans le lavage de cerveau ? De fait, la culture, entre guillemets, hospitalo-universitaire, française, présente les caractéristiques suivantes. Soumission à l'autorité des dirigeants, exigence d'engagement exclusif envers le groupe, harcèlement moral des réfractaires, dénigrement des valeurs personnelles, réaction stéréotypée face aux doutes existentiels, adoption d'un langage propre, hermétique aux étrangers, rejet des critiques extérieures, refus de se plier aux lois de la société. Point de suspension. Ces caractéristiques ressemblent terriblement à celles d'une secte, et ça n'a rien d'étonnant. Le but n'est pas d'éduquer les étudiants en médecine, mais de les endoctriner.
À ton avis, qu'est-ce que ça veut dire, refus de se plier aux lois de la société ?
Bon, peut-être qu'il fait allusion à que la loi dit sur, justement, par exemple, le consentement ou des choses comme ça.
D'accord. Mais c'est vrai, quand on voit l'affaire qu'il y a eu il n'y a pas longtemps, qui a fait quand même à juste titre pas mal de bruit sur justement les viols sur... Enfin, c'est assez extrême, mais enfin, t'es obligé de te poser la question de c'est tellement facile. Enfin, je veux dire, c'est l'occasion qui doit faire le larron beaucoup, beaucoup trop souvent. Hein. C'est tellement facile. Voilà.
En France, dans toutes les structures institutionnelles destinées à l'enseignement, la pédagogie a longtemps reposé et repose encore dans beaucoup de filières sur la parole du maître, l'apprentissage des règles et la pénalisation de celles et ceux qui ne s'y plient pas. À mesure que les enfants grandissent, humiliations et réprimandes sont beaucoup plus courantes qu'encouragements et félicitations. Élitisme oblige, il ne s'agit pas de permettre à chacun d'acquérir du savoir à sa propre mesure, à sa propre vitesse, mais de trier le bon grain de l'ivraie en éliminant les « entre guillemets médiocres », les plus faibles, afin que les « meilleurs », entre guillemets, les plus résistants, accèdent aux écoles les plus réputées. En faculté de médecine, le phénomène s'accentue à double titre. Moi aussi, je vais faire un commentaire. J'ai envie de dire que ceux qui sont éliminés comme médiocres ne sont pas forcément... Ou que ceux qui sont les meilleurs et les plus résistants, enfin, ne sont pas forcément les plus résistants ou les plus faibles. C'est aussi peut-être aussi une question de classe sociale.
Absolument, c'est carrément statistique. C'est une dimension que j'ai l'impression qu'il envisage moins facilement que nous, quoi. C'est-à-dire que les chiffres, c'est que, ben, surtout en fac de médecine, je crois que ça doit être que pour passer le cap, et rien que même pour aller en première année, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas grand-chose. Enfin, tu sais, je te parle souvent des lascars du LEP électronique qui, en 86, expliquaient que la grève des étudiants les concernait pas du tout. Tu sais, c'est comme les histoires de Parcoursup ou des trucs comme ça, que l'idée de la sélection à l'entrée de l'université, ça voulait rien dire pour eux, puisqu'ils sont déjà sélectionnés à la sortie du collège de toute manière, pour être de futurs ouvriers. Donc, mais que quand ils en parlaient aux étudiants, les étudiants ne voyaient pas du tout, enfin, ça les intéressait même pas. Or, c'est une réalité. C'est la façon dont t'es dirigé, dont t'as la possibilité pour des tas de raisons, de suivre des études. Au-delà, par exemple, pour ce qui est des études de médecine, ça, il y en a qui arrivent la première année, la deuxième année, enfin, c'est déjà de toute façon une minorité. Mais je crois que pour faire des études au long cours, ça doit être quelque chose de l'ordre de 1%, hein, ou 5%, enfin, c'est vraiment une toute petite minorité, mais qui sert à dire aussi, tu vois, quand on veut, on peut, puisqu'il y en a qui y arrivent. Mais en effet, cette dimension sociale, et tu as raison de le souligner, c'est lui, il a pas tendance à l'évoquer, je constate.
Je poursuis. Dans le monde des humains, comme dans le monde vivant en général, il n'y a pas de normes biologiques, mais de multiples variantes. On le constate aussi bien dans l'aspect des individus, la taille, la forme du visage, la couleur de la peau, des yeux ou des cheveux, que dans les aptitudes sensorielles. Certains voient d'innombrables teintes, d'autres sont daltoniens, les adolescents perçoivent des fréquences que les adultes n'entendent plus. Donc sensorielle ou cognitive, certains d'entre nous sont à l'aise avec les chiffres, avec les langues, avec un instrument de musique, d'autres encore quand il s'agit de courir, danser ou jouer la comédie, d'autres enfin pour travailler sur des objets minuscules. La norme est donc une notion très fluctuante, variable d'une personne à l'autre. Soigner quelqu'un qui est malade, c'est l'aider à retrouver sa norme. L'état dans lequel il ne se sent plus malade, ne souffre pas, se porte aussi bien que possible. Soigner, c'est aider le patient à retrouver un état qui le satisfait. Et les explorations diagnostiques et protocoles de traitement sont des outils dont se servent les médecins pour atteindre un résultat désiré par le patient, non par les médecins eux-mêmes, du moins quand on admet que le patient a son mot à dire.
Je crois que sur ce sujet-là, tu vois, je conseillerais le livre dont je sais pas, je crois qu'on avait fait une émission dessus, Les Naufragés de Patrick Declercq.
On avait fait deux émissions.
Voilà, c'est peut-être assez extrême, mais on aurait tendance à dire que quand même, la plupart des gens veulent ne pas souffrir, ne pas avoir par exemple des maladies de peau, ne pas avoir, tu vois, de toutes sortes de pathologies qui normalement font souffrir. Or, dans le livre, puisque lui était médecin, un médecin du monde, et il était Patrick Declercq spécialisé justement sur ce qu'on appelle vraiment les clochards, non pas les SDF, mais les gens qui sont en ce qu'on appelle en grande désocialisation et que dont c'est enfin qui n'ont aucune non seulement aucune chance mais même aucune envie de s'insérer dans la dans la société normale, etc. Ouais. Et que en effet c'était quelque chose qui posait vraiment des problèmes spécifiques parce que beaucoup ne voulaient pas être soignés de certaines pathologies que n'importe qui voudrait être soigné normalement. Mais là il disait c'est l'extrême altérité et un médecin digne de ce nom devrait être capable d'entendre ce désir-là. Pas aussi extrême peut-être, mais il y a des gens qui préfèrent ne pas faire de chimio plutôt que de faire une chimio, voilà. Oui. Qui veulent pas en effet de soins palliatifs, qui préfèrent ne pas survivre un petit peu plus mais de devoir rester à l'hôpital. Ce sont des cas où parce que sinon on aurait tendance à dire enfin qui ne voudrait pas être soigné quand il a une maladie, mais c'est pas toujours si simple et c'est une question d'état d'esprit en effet de se dire c'est le patient. J'en ai connu comme ça qui disait non, je veux pas faire de chimio par exemple. Voilà.
Dans notre pays, l'enseignement médical accorde très peu de place aux variations physiologiques. Il se focalise au contraire sur la recherche des anomalies, de préférence les plus grosses, celles qui sont source de pathologies lourdes. Apprendre la médecine consiste en grande partie à dépister tout ce qui est hors norme, afin de ne jamais passer à côté d'une maladie. Car c'est la maladie qui compte et non le patient. C'est le diagnostic de la maladie rare qui gratifie le médecin, non la guérison de celui qui en souffre. Citation. J'ai eu le sentiment d'être considéré comme un cas, non comme une personne, entend-on souvent dire par des personnes sortant de l'hôpital ou d'une consultation spécialisée. À l'hôpital et en ville, j'ai beaucoup plus souvent entendu « j'ai fait un beau diagnostic » que « je suis content, le patient gravement malade que je soignais hier va mieux ». De fait, dans les facultés de médecine françaises, il est très difficile d'acquérir un regard critique. Pour cela, il faudrait que les enseignants soient prêts à s'y soumettre et valorisent les questions, les interpellations, la contradiction, le débat de leurs étudiants. Mais comment le pourraient-ils ? Leurs propres maîtres ne s'y sont pas soumis non plus. Et comme il faut tout de même adopter un semblant d'esprit scientifique, ce sont les autres que l'on critique. Ceux qui n'ont pas le même statut, ceux qui ne sont pas de la même caste. À l'hôpital, j'ai entendu beaucoup plus de colibets, d'invectives méprisantes, toujours faites à distance, en direction des médecins de ville ou des généralistes de campagne, que de questionnements francs entre professionnels du même service. Devenir médecin consiste avant tout à devenir un docteur, quelqu'un qui sait, qui diagnostique et qui traite comme ses maîtres. Il ne s'agit pas du tout de montrer qu'on sait soulager des souffrances, mais qu'on sait bien reproduire ce qu'on a appris afin d'être digne de devenir docteur à son tour. Apprentissage des nuances, acquisition d'un savoir-faire soignant et prise en compte du patient ne font pas partie du programme. Je poursuis.
Ça va.
Ah, on a plus.
On a encore 5 minutes.
Trois, oui. Ouais. L'endoctrinement médical est par son élitisme tout à fait comparable à celui que subissent les élèves des grandes écoles militaires ou d'administration, humiliation à la clé. Il n'y a en effet que deux options. Si t'es pas un cador, ça veut dire que t'es nul. L'endoctrinement se nourrit de violence morale. Toute proportion gardée, beaucoup d'enseignants se comportent comme des pères fouettards et leurs étudiants, tels les enfants battus, n'ont de cesse de satisfaire leurs attentes. Car l'enjeu est grand, déplaire au patron, quel que soit l'échelon sur lequel on a le pied, c'est courir le risque au minimum de ne pas recevoir son enseignement, au maximum d'être exclu de ses faveurs, de son service,
voire de la profession. En plus d'être le signe d'une inexcusable médiocrité, ne pas être un cador est aussi une transgression proprement criminelle, puisque, rappelons-le, tes patients mourront.
Voilà. Malgré tout, je parlais justement avec une amie infirmière qui me parlait de, enfin, elle est américaine, mais enfin, le problème est le même, qui me parlait de cette angoisse, en effet, que à l'école d'infirmière où elle est, enfin, elle est pas encore infirmière, donc une élève infirmière, qu'elle angoissait à l'idée de la responsabilité qu'elle avait. Et en même temps, indéniablement, il y a une responsabilité. Que pour de vrai, c'est pas comme je sais pas moi, être manutentionnaire, ou tu vois, c'est quand même un truc où tu te dis t'as réellement une responsabilité. Quelquefois, du personnel soignant peut être responsable de mort, en effet. Et donc, jouer là-dessus, c'est un peu borderline, tu vois ce que je veux dire? Parce que, pour de vrai, c'est pas complètement fantasmé qu'il y ait une responsabilité, et que si jamais tu fais les choses de travers, tes patients mourront. J'avais fait, par l'époque où j'écrivais des histoires vraies criminelles, il y avait une infirmière qui s'appelait Jane Ann Jones, et qui était atteinte d'un syndrome de Munchausen par procuration, qui consiste à effectivement maltraiter, là, dans ce cas, enfin, certaines infirmières, des anges de la mort aussi, mais dans ce cas-là, elle rendait exprès les enfants malades, tu vois, pour se rendre intéressante, on va dire. Mais le truc, c'était qu'il suffisait qu'elle se trompe dans des dosages. Et l'idée était de les rendre malades, pas forcément de les faire mourir, mais des fois elle les faisait mourir. Et elle a joué, j'ai pas fait d'exprès. Mais en même temps, c'est quand même indéniable que si par exemple tu te trompes dans les dosages, c'est pas comme si t'es, mettons, serveuse dans un fast-food et puis que t'as mis un petit peu trop de mayonnaise. Tu vois. Et c'est ça aussi qui est un petit peu cornélien aussi. C'est que pour de vrai, t'as une responsabilité, un peu la vie et la mort des gens. Et en même temps, on peut jouer sur cette angoisse réelle pour te manipuler. Pour de vrai.
Et puis pour exercer un pouvoir aussi.
Voilà ce que je fais.
Merci encore d'être passé à l'entonnoir. Et nous vous disons à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine. Toujours avec le même livre, la semaine prochaine, normalement.
On va écouter maintenant l'émission suivante, qui est Un rayon de soleil, une émission de Radio Libertaire Méditerranée. Alors, bonne écoute, et bonne écoute sur Radio Libertaire, la radio de la Fédération anarchiste.
Soleil.
Le libertaire debout, le soleil à son zénith. Une émission de Radio Libertaire Méditerranée.
Tu casses les âmes côté bout, tu casses une ouest des clés, où est-ce que nos soins n'a pas. Radio Libertaire 89.4, la radio de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, ni publicité.